Sí, perdó, gràcies. Amb la intervenció del professor Sylvain Agoult, la millor presentació, que de fet la tenim en els papers que s'han distribuït, és que és una de les persones que normalment s'han de citar sempre en, quan fem estudis o història de la llengua. Crec que és la millor presentació. Per tant, ja passem directament a la seva intervenció, Le mythe de la langue mère.
D'accord, merci, je vous remercie. Donc, bonjour. J'ai décidé d'insister sur l'aspect mythe de ce colloque après avoir hésité à travailler sur l'aspect norme et sur l'idée que les langues nationales sont des mythes, n'existent pas, ce sont des artefacts construits par la grammatisation. Mais il me semble que le mythe le plus difficile de notre profession de linguiste, c'est cette idée de langue mère, et en particulier de langue mère de l'humanité. Alors, c'est un mythe, je dirais, assez particulier, car il est vrai qu'il a une origine religieuse. Il y a à l'origine biblique la langue d'Adam, et plus que tout cela, il y a la langue de Noé et la généalogie biblique. Mais le véritable mythe de la langue mère n'est pas simplement le décalque du mythe biblique, il est construit scientifiquement entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Ce sont les philologues qui vont le construire. Et ce mythe, je dirais, a été un programme scientifique que la grammaire comparée a dû détruire. Et je vais vous montrer comment la grammaire comparée a détruit le mythe de la langue mère. Mais assez bizarrement, ce mythe réapparaît au XXe siècle. Et pas n'importe comment, il apparaît sous les auspices de l'Académie des sciences de New York, dans les années 70, où on reprend des recherches sur l'origine des langues, mais c'est une tradition américaine avec la lexicostatistique de Maurice Swadesh, la comparaison multilatérale de Greenberg et surtout cette chose étonnante qu'a été la vogue de Mary Trullen. On a vu dans le monde entier paraître en livre de poche les ouvrages de Mary Trullen qui vous reconstruisaient la langue mère de l'humanité. Alors, ce n'est pas étonnant dans le contexte anglo-saxon. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, vous avez des musées sur le créationnisme. Et je dirais, d'une certaine façon, le mythe de la langue mère appartient à cet environnement culturel où il importe de lutter contre le darwinisme, il importe même actuellement de lutter contre la théorie de la relativité et la théorie des quantas. Donc, je dirais, c'est pas n'importe quoi que ces mythes, et il est important de les déconstruire. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, non ? Je dirais, il faut bien comprendre qu'à la fin du XVIIIe siècle, dans tous les pays d'Europe, il y a des grandes compilations sur... Ok, c'est mieux. Il y a des grandes compilations sur les langues du monde. Pour nous autres historiens de la linguistique, vous voyez comment ça se passe. À partir, je dirais, de la fin du XVe siècle, on assiste à ce que nous appelons la grammatisation des langues du monde. C'est-à-dire que, selon les normes de la grammaire gréco-latine, on construit des grammaires pour à peu près toutes les langues du monde. Il faut bien voir qu'à la fin du XVIIIe siècle, le patrimoine espagnol en matière de langue amérindienne, c'est environ 250 langues grammatisées. Je dirais, d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue scientifique, c'est considérable comme travail. Et cette grammatisation amène à ce que l'on connaisse des langues et que l'on se pose des questions sur leurs relations. Et dans chaque pays, vous avez des gens qui ont essayé de faire une synthèse. Alors en France, il y en a deux. Il y a le président Charles de Brosse, traité de la formation mécanique des langues ou principe physique de l'étymologie, 1765. Et surtout Antoine Courte de Gébelin a écrit un énorme ouvrage en 9 volumes in quarto, qui s'appelle « Le monde primitif comparé et analysé avec le monde moderne ». C'est un projet culturel extrêmement intéressant parce que c'est un réformé, c'était même le responsable des églises protestantes de France, Courte de Gébelin, qui essaye de montrer comment la nature est devenue naturellement signifiante au travers de l'homme. En Angleterre, c'est bien connu Lord Monboddo, Of the Origin and Progress of Language. Bon, là aussi, 6 volumes, c'est énorme. Alors, en ce qui concerne le patrimoine espagnol, c'est l'abbé Lorenzo Hervás y Panduro, la première version de son travail, c'est un jésuite d'origine espagnole, la première version de son travail est en italien, mais la deuxième, qui est elle aussi en 6 volumes, in quarto, c'est énorme, est en espagnol. Alors, il faut bien comprendre que, vous voyez les dates là, on est après l'expulsion des jésuites d'Amérique. Et Hervás sera bibliothécaire au Vatican. Et c'est lui qui va débriefer tous les jésuites chassés d'Amérique et qui va retenir les informations sur les langues. Et c'est de lui que Guillaume de Humboldt, qui à la même époque est ambassadeur de Berlin au Vatican, va tenir tous ses renseignements pour ses travaux sur les langues amérindiennes. Vous avez le russe Simon Pallas. Bon, lui, il écrit en latin, heureusement, parce que le russe est une langue qui n'est pas extrêmement répandue à l'époque. Vous avez surtout les plus modernes, Johann Christoph Adlung et Johann Severin Vater, Mithridates oder allgemeine Sprachkunde mit dem Vater unser als Sprachprobe in beinahe 500 Sprachen und Mundarten. 500, c'est déjà énorme. Je vais y revenir. Adlung est un auteur important de grammaire générale en Allemagne. Il a eu une importance pédagogique énorme. Et Severin Vater est celui qui est à l'origine de l'utilisation moderne du mot linguistique. Ça apparaît notamment dans la préface du second volume du Mithridate. Vater était bibliothécaire. Dans le second volume du Mithridate, où il explique que la linguistique, c'est la discipline qui recherche l'origine des langues et leurs apparentements. C'est ce mot-là, ce sens de linguistique, concurrencé en Allemagne par Sprachwissenschaft, qui va l'emporter au XIXe siècle. J'ai donné un des derniers éléments de la série, Adriano Balbi, qui écrit en français, mais bon, c'est un Vénitien, c'est un géographe, un statisticien, et il a été au service de toutes les grandes puissances. Pourquoi ? Parce qu'il est capable d'expliquer quelles sont les garnisons de tel château, quelles sont les ressources économiques. La géographie, ça sert à faire la guerre. Et là, quand il publie son atlas ethnographique du globe, il est au service de Napoléon. Mais il passera au service de l'Autriche, de l'Espagne, et il finira, je crois, au service du Portugal. Donc, voilà des compilations extrêmement importantes. Et je dirais que cette série correspond à une indéniable progression de la connaissance des langues. Chez Gébelin, il y en a une soixantaine. Chez Palas, il y en a 222 dans la première édition, 280 dans la seconde. Il y a beaucoup de langues du territoire russe qui sont mal connues en Occident à cette époque. Chez Hervas, il y en a 300. Chez Adlung et Vater, il y en a 400 dans la dernière édition. Et en 1826, Balbi en retient 500. On parle du patrimoine de l'humanité à 500 langues et fait la conjecture que les langues de l'univers doivent être environ 2000. Bon, alors, on est loin des 6000 dont on parle aujourd'hui, mais j'aurais tendance à dire que 2000, c'est pas moins bien fondé que lorsqu'on dit aujourd'hui qu'il y en a 6000. Hein, puisqu'on a toujours un concept de langue qui est très bizarre. Je veux dire, dans beaucoup de cas, on considérera que le macédonien et le bulgare sont deux langues. Je veux dire, que le serbe et le croate sont deux langues. C'est donc il est très difficile. On n'a pas, je dirais, en dépit du structuralisme, je dirais qu'on n'a pas de concept scientifique de langue. C'est ce que les romanistes de la fin du XIXe siècle, les romanistes français, ont mis en lumière. Le concept de langue est une abstraction. C'est lors d'une grande querelle avec le néo-grammairien Ascoli, où on disait non, il n'y a pas de frontière dialectale. Il y a des isoglosses, mais pas de frontière dialectale. Et le concept de langue est une question de point de vue. C'est un élément que reprendra Saussure. Et je dirais qu'en même temps que la progression de la connaissance de langue, des langues, ce grand mouvement de grammatisation qui accompagne le développement de l'Occident et la conquête du monde, c'est le colonialisme européen qui est derrière tout ça, ça fait l'objet d'un travail de classification. On oublie toujours que à chaque fois que l'on a disposé de suffisamment d'informations sur un groupe de langues, qu'on a toujours proposé des apparentements. Alors, je vais y revenir. Mais au XVIIe siècle, on a clairement la famille des langues sémitiques et la famille des langues léonatines. Pour les langues sémitiques, ça peut vous paraître plus bizarre, mais vous citez simplement. En 1554, Angelo Canini publie ses Institutiones Linguae Syriacae, Assyriacae, Atque Talmudicae, Una cum Aethiopicae atque Arabicae collationae. Bon, vous avez déjà cette idée des langues sémitiques. Et si vous suivez les travaux, par exemple, de quelqu'un qui est plus connu, comme Job Ludolf, vous verrez qu'en 1661, il publie une Grammatica Aethiopica et, évidemment, un dictionnaire. Et qu'en 1698, il s'attaque à Alaric. Il écrit « Une grammatica linguae amaricae, quae vernaculara est abyssinorum » et il publie évidemment un dictionnaire. Et en 1702, il publie un traité de grammaire comparée en replaçant l'éthiopien, donc l'amaric, dans son ensemble, qui regroupe les principales langues hémitiques. Dissertatio de harmonia linguae aethiopicae cum ceteris orientalibus. Il faut bien comprendre que l'apparentement par famille, la comparaison des langues, est quelque chose de quasiment automatique. Au XVIIIe siècle, on a la famille caribe, bien distinguée en particulier de l'arawak. On a le sioux et l'algonquin qui sont bien séparés. On a l'austronésien, qui est bien à toutes les langues donc, des mers du sud, notamment dû à un belge, Adriano Reland. Bon, et surtout de la famille finno-ougrienne. C'était pas évident de rapprocher le Siam et le Hongrois. C'est fait en 1799. Vous connaissez tous les travaux de Samuel Giarmati, Affinitas linguae ungaricae cum linguis phoenicae originis grammaticae demonstrat. C'est publié à Göttingen. Bon. Alors, et le seul point sur lequel on a un petit peu de retard et moins évident, ce sont les langues indo-européennes. Alors, il y a des séries sur les langues indo-européennes. On a des petits problèmes en ce qui concerne le rapport entre le grec et les autres langues indo-européennes, le grec et le latin. Et on n'a pas encore bien découvert les langues italiques. C'est à la fin du 18e, au début du 19e, qu'on aura des bonnes consciences des différences entre le latin, l'osque et l'ombrien. Mais on a du mal à retracer l'unité de la famille européenne tant qu'on n'a pas le sanskrit. Alors, on sait, évidemment, dès le XVIe siècle, qu'il y a un rapport entre le sanskrit et le grec. Il n'y a pas besoin d'être très malin. Vous prenez la troisième personne du singulier du verbe être, esti, en grec. Bon, en sanskrit, c'est asti. Vous regardez le paradigme verbal. Bon, ça va tout seul quand vous comparez. Vous dites, tiens, il y a du rapport. Moi, la question est d'interpréter. Et comme on n'a pas de connaissance approfondie du sanskrit, je dirais avant la fin du XVIIIe siècle, on a tendance à penser que ce sont des emprunts. Que les sanskrits, comme il y a des voyages, après tout, tout le monde sait qu'Alexandre est allé jusqu'aux rives de l'Indus. On se dit que ce sont les sanskrits qui ont emprunté aux Grecs. Donc c'est encore un petit peu flou, mais on a bien l'idée quand même qu'il y a un rapport entre les langues romanes, les langues germaniques et même les langues slaves. Je dirais, tout ça, ça correspond à de la science normale, au sens de Kuhn. Dès le XVIe siècle, on a mis au point une méthodologie pour comparer les langues. Et c'est une méthodologie qui est apprise aux missionnaires, qui est apprise aux marins. Quand on est en contact avec une langue, soit si on a quelqu'un d'astucieux ou si on a ce qu'on appelle à l'époque des truchements, des gens bilingues, on fait traduire un texte, le Notre Père. Hein, vous avez vu Vater, Sprachun, Sprachprobe, pour le Notre Père. Mais surtout, on utilise un vocabulaire de base, hein, d'une quinzaine de mots. Hein. Il y a les pronoms personnels. Bizarrement, il y a l'énumération. Hein. C'est bizarre quand on sait que, justement, il y a des tas de langues dont les nombres les cardinaux ne vont pas au-delà de trois. Hein. Et il y a les parties du corps et les quatre éléments. Mais dès le XVIe siècle, hein, et quand l'Église catholique va créer le ministère pour la propagande de la foi, on voit bien dans les rapports qu'envoient les missionnaires, les jésuites, notamment à la propagande, il y a un plan, on s'intéresse d'abord à l'environnement, au sol, aux plantes, après ça on regarde la langue, et puis les mœurs, comment on se marie, comment on répartit les propriétés, comment on les chiffrer, etc. Hein, je veux dire, il y a un travail considérable. Hein. Là, il ne faut pas penser que la conquête du monde par l'Occident s'est faite au hasard. Il y a un travail scientifique considérable. Je dirais qu'à partir du XVIe siècle, les sciences humaines sont au service d'un projet d'expansion. Et ceci dit, cette méthodologie, elle est clairement définie. Hein, et je vais reprendre la façon dont Courte de Gébelin, hein, donc notre Français protestant, hein, il est né à Nîmes, elle expose. Premièrement, le mot est l'unité de base. C'est quelque chose d'important de comprendre ça. Quand on fait une comparaison, la question qui se pose, c'est que va-t-on comparer ? Et l'idée qui vient d'abord, c'est de prendre le mot comme unité. Et à l'intérieur du mot, tous les éléments peuvent changer grâce à des figures. Alors, on a les figures de son, le métaplasme. Bon, c'est utilisé depuis les Romains, ça. Hein. Les gens vous disent, ben, vous avez une bilabiale. Alors, ce que nous décririons aujourd'hui comme une bilabiale sonore, bah, hein, bon, là, il y a la bilabiale sourde, bah, c'est pareil. Il n'y a pas. Le son est considéré comme une entité quasi-naturelle à l'intérieur d'un mot, dont les variations sont contingentes, c'est-à-dire arbitraires. Et il en va de même pour la signification. Hein? Tiens, voilà un mot dans une langue amérindienne. Ça signifie lac. Bon, ça peut signifier par catacré, c'est-à-dire par extension, eau, hein? Ou ça peut encore signifier rivière, etc. Et donc on peut passer. Et vous voyez bien que ces changements qui affectent cette unité première qu'est le mot, hein, sont eux aussi contingents et indéfinis. J'y reviendrai parce que c'est un des problèmes de cette méthode. Et j'ajouterai que si on peut relier un mot à un autre par des changements de son, donc dus au métaplasme, du moment que l'on peut relier leur sens par une figure de sens ou une suite de figures, on est en présence du même mot. Alors à partir de là, vous comprenez bien qu'on est capable de reconstruire la langue primitive, primitive de l'humanité. De Bros se propose de construire comme ça un archéologue universel, c'est-à-dire la liste de tous les mots, hein, de la langue primitive que l'on reconstruit en remontant par comparaison des langues attestées. Je vous rappelle que c'est le projet de Mary Trullen. Hein, dans son petit ouvrage si célèbre sur l'origine des langues, vous avez à la fin les 600 mots de la langue de l'humanité. Alors, je dirais, il ne faut pas mépriser cette méthode. Il ne faut pas mépriser cette méthode parce qu'elle a du succès. On voit très bien comme ça que quand, par exemple, les Français sont arrivés en Guadeloupe, ils ont été capables d'apparenter la langue parlée par les hommes avec le caribe, et même de découvrir un phénomène intéressant, à savoir que les femmes ne parlaient pas caribe, mais arawak, donc l'arawak, comme on dit à l'époque, une langue qui n'est pas de la même famille. Je dirais, mais en plus, on connaît cette expertise. Par exemple, Courte de Géblin est célèbre. Quand Bougainville revient de Tahiti avec des indigènes, on fait appel à lui. Et puis à d'autres spécialistes, par exemple à Perrer, qui était spécialisé dans l'éducation des sourds et muets, c'est-à-dire finalement dans la phonétique articulatoire. Et en étudiant la langue des Tahitiens ramenée par Bougainville, Courte de Géblin est capable de la rattacher à toutes les langues que l'on connaît des mers du Sud et au malais, ce qui est parfaitement correct. Et le premier texte qu'il a écrit là-dessus est resté manuscrit, se trouve actuellement dans les archives, aux archives de Bordeaux, puisque c'est un mémoire à l'Académie de Bordeaux, à l'Académie de La Rochelle. Je date ce manuscrit de 1772. Alors, on dit c'est extraordinaire, ça fonctionne. Seulement, voilà. Malheureusement, j'ai retrouvé deux autres versions de Courte de Géblin sur Tahiti. En 1777, il a allongé en quelque sorte le manuscrit qu'on a retrouvé pour en faire un texte qui est paru dans les Recherches historiques et géographiques sur le Nouveau Monde de Jean-Baptiste Scherrer. Donc ça s'appelle « Langue des îles de la mer du Sud ». Alors, vous voyez, c'est un ouvrage sur l'Amérique, Et on nous remet Tahiti. Donc on essaye de relier les langues de la mer du Sud avec l'Amérique du Sud. Et puis en 1781, dans le tome 8 du Monde primitif, il reprend encore une fois le texte, c'est une troisième version, c'est les langues sudéennes. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer les trois versions. Alors, c'est assez foutrement extraordinaire. On a vu, premier cas, il identifie parfaitement la langue de Tahiti comme appartenant à cette famille austronésienne, enfin, qu'on appellera malayo-polynésienne, compare avec le malais, etc. Deuxième cas, on rajoute des langues amérindiennes. Et on trouve des ressemblances. Et dans la dernière version, on rajoute le phénicien, enfin toutes les langues des voyageurs, et on compare aussi avec des mots de la langue primitive. Autrement dit, voilà la conclusion qu'on donne. Tout dépose la communication la plus étroite entre toutes les îles du Midi de notre globe, donc toutes les îles qui sont dans l'océan Indien et dans le Pacifique, et dans les deux hémisphères, et tout ramène à cet égard aux Phéniciens, les Phéniciens qui ont voyagé. Alors, voilà, ça m'a intéressé, ça m'a intéressé quand je suis tombé sur ces trois versions, parce que c'est, et j'y reviendrai sur les critiques modernes de Rulen, c'est exactement un petit peu les avantages et les limites de la comparaison traditionnelle. À la fois, ça marche, hein, mais en même temps, il y a une surcomparaison. Et une surcomparaison qui fait que, dans le fond, Kurt aurait pu continuer indéfiniment à faire des rapprochements avec de nouvelles langues et y voir la confirmation empirique de sa théorie du monogénétisme. Comparer, 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 il en restera toujours quelque chose. Et quand on lit Mary Trullen, on se dit, mais quel imbécile, hein, il ne comprend rien, il n'y a rien à une méthode scientifique. Vous pouvez continuer à dire, ah ben là il y a un A, là il y a un A, c'est pareil. Bien sûr que c'est. Et puis vous dire, nous, on a les faits pour nous, tu parles. Le problème, c'est que dans ce contexte, tout rapprochement est irréfutable. Est-ce que nous... Bon, alors, je veux pas... Alors, au XVIIIe siècle, les gens, ils n'ont pas lu Popper. Hein. Autrement dit, ils ne savent pas que le problème, ce n'est pas la confirmation, c'est l'infirmation. Qu'une théorie qui est irréfutable n'est pas une théorie. Et je dirais que pour un comparatiste qui s'efforce de regrouper les langues par famille... Le problème, ce n'est pas l'extension des comparaisons, c'est leur limitation. Et quand on voit comment ça marche, on se dit, mais ils ont eu des grands succès. Sur donc, le Sioux, l'Algonquin, le Malais, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils font des comparaisons tout en restant, sans le savoir, au sein de la même famille. Du coup, ils peuvent faire des apparentements. Et j'ajouterais que, non seulement ils font des apparentements, mais ils font des calculs. Dès la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, on fait de la lexicostatistique, c'est-à-dire on mesure les degrés d'apparentement pour voir les séparations. Et je dirais, on voit bien, là où ça marche le mieux, comment ça fonctionne ? Si vous comparez Kurt de Gebelin ou l'un quelconque des voyageurs qui, dans son livre de bord, fait des comparaisons entre langues avec quelqu'un comme Jarmati. Jarmati, c'est un érudit. Bon, et puis l'hongrois, c'est une langue de culture, hein, qu'on connaît bien. Il y a des grammaires, il y a des dictionnaires. Le finnois aussi. Le finnois, on connaît bien depuis la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, parce que les Suédois, quand ils ont conquis la Finlande, ils ont fait des manuels pour leurs administrateurs, notamment des dictionnaires, des grammaires du finlandais et des dictionnaires suédois, finlandais. Donc c'est des langues de culture qu'on connaît bien. Et Jarmati, il explique dans certains cas que la comparaison ne vaut pas parce qu'elle est universelle. Autrement dit, on voit très bien que le sens de sa démarche, ça consiste à exclure des ressemblances. Et c'est ça le vrai problème du comparatisme. Et on s'aperçoit que dès la fin du XVIIIe ou le début du XIXe, alors qu'on continue les grandes compilations, voire qu'on les fait de façon régionale, sur les langues orientales, sur les langues européennes, etc., hein, on commence à dire que le métaplasme et les tropes, il faut se les interdire quand on fait des comparaisons. Hein, c'est Langevinet. En 1813, dans une édition d'un ouvrage d'une réédition d'un ouvrage de Kurt de Gebelin, l'histoire naturelle de la parole, qui explique que si on s'autorise sans limitation métaplasme, métrope, on peut démontrer n'importe quoi. Hein? Bon, et ça, j'y reviendrai parce que c'est important. Deuxième point. Je ne sais pas si vous connaissez d'Orbigny, c'est un, C'est un ethnologue qui a écrit un grand ouvrage qui s'appelle « L'homme américain » en 1839, qui explique que si vous prenez des sons séparés, comme l'organe humain, malgré tout, n'a pas 36, la quantité des sons est relativement limitée, eh bien, statistiquement, vous aurez nécessairement, entre n'importe quelle langue et n'importe quelle langue, des ressemblances. C'est une nécessité statistique. Enfin, tous, ils en disent qu'il faut limiter les comparaisons. Il faut limiter les comparaisons. Autrement dit, on est en train de déconstruire le programme de la science normale qui a dominé du XVIe au début du XIXe siècle, la comparaison et l'apparentement des langues. Et, petite parenthèse, on lit dans tous les manuels d'histoire des théories linguistiques, sauf dans ceux qui sont produits par le laboratoire d'histoire des théories linguistiques de l'Université Paris 7, que c'est William Jones qui a inventé la grammaire comparée. Moi, qui suis un historien, c'est-à-dire un sceptique, donc qui va voir, je suis allé lire cette adresse à l'Asiatic Society que William Jones fait devant l'Asiatic Society de Calcutta en 1786. C'est la troisième adresse, celle où on dit « Oh génie !» William Jones découvre le sanskrit et la linguistique indo-européenne. C'est clair que le juge de Calcutta, il fait bien l'hypothèse que les affinités entre le grec, le persan et le sanskrit témoignent d'une origine commune. Le grand avantage de William Jones, c'est qu'il a sa culture classique, donc comme tous les savants de cette époque, il connaît parfaitement le grec. Il a écrit une grammaire du persan, et quand il arrive à Calcutta, il se met au sanskrit. Donc il connaît bien ces langues, et c'est celui qui est capable de faire les premières comparaisons un petit peu étendues, et pas simplement sur deux, trois formes d'un paradigme verbal. On cite toujours ces trois lignes. Mais si vous allez plus loin, il continue, il vous dit que les habitants de l'Inde ont ce qu'il appelle « a memorial affinity » avec les anciens Perses, les Éthiopiens, les Égyptiens, les Phéniciens, les Celtes, les Chinois, les Japonais et les Péruviens. Et il ajoute, comme ces nations ne sont pas des colonies les unes des autres, il en conclut que toutes sont venues de quelques contrées centrales. Autrement dit, nous sommes bien dans la science normale. William Jones, c'est pas la linguistique moderne, c'est la fin du paradigme du comparatisme que j'appellerais classique, pré-Grimm, pré-Bop, qui a ses succès. Et je dirais, le rapprochement du grec et du sanskrit chez William Jones fait partie des succès de l'ancien modèle. Tout comme Jarmati et les langues, le hongrois et le finlandais. Tout comme le Tahiti et le Malais, etc. Je veux dire, ce paradigme n'est pas sans, sans atout. Sauf que ça ne marche pas. Et alors, la vraie révolution, je ne crois pas tant qu'elle soit dans l'ouvrage de Bopp, Über das Konjugationssystem de 1816, là où il compare effectivement le système de conjugaison du grec et du sanskrit, mais c'est plutôt dans la deuxième édition, 1822, de l'affaire Gleichende Grammatik de Grimm, là où il présente la Deutsche Verschiebung, la mutation consonantique des langues germaniques. Et donc, là où il présente le concept de loi phonétique. Et on voit bien qu'on n'est plus dans le même paradigme. L'unité du changement, c'est pas le mot, c'est le phonème. C'est important parce que ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser à un changement accidentel, contingent à l'intérieur d'un mot, on va s'intéresser à toutes les occurrences de la même lettre. J'emploie le mot « lettre » comme l'employé Grimm. Sachez que depuis les Romains, littéra, hein, la lettre, ça ne veut pas dire l'élément écrit. Hein. Dans la grammaire latine, il y a deux éléments dans la lettre, dans la littéra. Hein. Il y a la figura, c'est-à-dire ce qui est écrit, et le sonum, le son. Hein. L'être, c'est ce qui correspond le mieux, enfin, avec des tas de différences, à ce que nous appellerions un phonème. Donc, partout où vous aviez, par exemple, « p » dans les langues européennes, dans les langues germaniques, vous aurez « f ». Hein. « Pater », « patar » en sanskrit, ça donne « fater » ou « fater ». C'est extrêmement important. Le changement advient dans toutes les occurrences du phénomène considéré. C'est ce qu'on nomme une loi phonétique. Alors, les néo-grammairiens diront que c'est nécessaire et obligatoire. Mais on comprend bien que c'est la vue systémique qui est derrière. Enfin, il est orienté et spécifique à chaque langue. Ou au plus à un groupe de langues bien déterminé, comme dans le cas de Grimm et des langues germaniques. Autrement dit, vous ne pouvez pas avoir la circularité des changements aléatoires que vous aviez dans l'ancien paradigme. Et on remarque qu'il y a une incompatibilité fondamentale qui est le problème théorique du comparatisme. Vous pouvez à la fois rechercher les ressemblances entre toutes les langues pour reconstruire la langue mère de l'humanité, et rechercher les ressemblances entre les langues qui constituent une même famille descendant d'un ancêtre commun et reconstruire ce dernier. C'est là qu'il y a une faille dans, je dirais, le programme de l'ancien paradigme. Il surcompare. Donc vous n'êtes jamais sûr d'être à la bonne échelle. Et par conséquent, vous pouvez générer n'importe quelle absurdité. Et donc le problème de la génération des Bopp et des Grimm, ça va être d'être capable de trouver la bonne dimension. Comment calibrer la comparaison de façon à ce qu'elle soit féconde à tout coup et qu'elle ne surgénère pas des comparaisons. Et la solution va être très claire. Je vous prends une citation, parce que je suis toujours resté dans le paradigme, dans les îles de Tahiti. Hein, c'est sympa d'y penser aux îles de Tahiti. Vous savez que ça a intéressé Humboldt, et en particulier un de ses disciples, Buchnam, qui a repris des manuscrits de Guillaume de Humboldt, et écrit un aperçu de la langue de Tahiti précédé d'une introduction sur l'histoire et la géographie de l'archipel des Marquises. Nous sommes donc en 1843. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il vous dit. Les trois souches, la souche des langues sanscrites ou indo-européennes, des langues sémitiques et des langues malais, n'ont entre elles d'autres affinités que ce qui est les gens peuvent dire, mais empiriquement, qu'est-ce que ça veut dire? Empiriquement, c'est Courte de Gébelin qui a raison, parce que lui, il peut ramener des tas de faits. Mais là, vous avez un principe qui consiste à dire, bon, on se donne un cadre qui est que vous avez trois familles linguistiques, les langues sanskrites, bon, donc les langues indo-européennes, les langues sémitiques et les langues malais, hein, donc les langues océaniennes, et ces trois familles sont indépendantes. Par conséquent, je ne ferai pas agir la comparaison entre des éléments de chacune de ces familles. A priori, ça peut paraître arbitraire. Mais on voit bien que c'est la solution au problème que je posais avant. Il faut se donner une limite. Et, chose étonnante, Bob, hein, dans l'affaire Gleichende Grammatik, hein, donc pas dans Conjugation de Système de 1800, mais plus tard, hein, Grande grammaire comparée des langues indo-européennes, l'ouvrage fondateur, hein, auquel il travaillera jusqu'en 1852, hein, dans la préface, hein, il n'hésite pas à écrire ceci, il n'y a que le mystère des racines, ou en d'autres termes, la cause pour laquelle telle conception primitive est marquée par tel son et non par tel autre, que nous nous abstenons de pénétrer. Ah, ça veut dire qu'on va admettre que dans les familles, il y a des racines, mais on ne va pas au-delà. On ne peut pas savoir pourquoi telle racine existe dans telle famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon. J'anticipe sur ce qui va venir. Ça veut dire deux choses. Premièrement, pour la grammaire comparée avec ses standards épistémologiques qui va connaître tous les succès de la science du XIXe siècle, on ne va pas essayer de justifier les racines des familles de langues. Autrement dit, on ne va pas faire de la comparaison entre des macrofamilles, comme ont fait les linguistes russes de la période soviétique, hein, ou les Américains à peu près à la même période. On ne va pas se dire, tiens, on va prendre la famille malayo-polynésienne l'indo-européen et comparer les racines et construire le nostratique, hein, qu'ils appellent. C'est interdit par la méthodologie. Encore une fois, il n'y a pas d'argument empirique, c'est un axiome. Deuxièmement, eh ben, ça veut dire qu'on va refuser de s'attaquer à l'origine des langues. On va prendre les familles toutes constituées. Et donc, on construit la grammaire comparée sur deux points. Un, il faut pas, la méthode ne nous permet pas de traiter l'origine des langues. Deux, les langues sont arbitraires. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que nous dit Bob. Les racines, je considérerais qu'elles sont arbitraires. Et je vous ai donné une citation, là, parce que je trouve ça marrant. C'est Yemsle. Vous savez, Yemsle, bon, on le cite toujours comme structuraliste, mais Yemsle, c'est un grand connaisseur des langues, un grand connaisseur de la grammaire comparée, et il a écrit notamment à la fin des années 50, un de ses derniers ouvrages, quelque chose sur l'histoire des langues, et il s'exprime sur la racine. Et dans le texte que je vous ai donné, il va encore au-delà dans la conception que les racines sont arbitraires. Jusqu'à présent, chez Bob, les racines sont arbitraires parce que nous sommes incapables de relier le son qui constitue la racine avec un élément du réel, sens classique du mot arbitraire. Chez Yemsle, c'est extrêmement beau épistémologiquement ce qu'il raconte. Il va nous dire que c'est arbitraire, non pas dans ce sens traditionnel, un petit peu bébête, c'est arbitraire parce que c'est un choix de nomination du linguiste. Du même que le mathématicien vous dit, soit un triangle ABC, hein, et c'est un triangle arbitraire, eh bien le linguiste, il va vous dire soit la racine du haut, indo-européenne, et c'est arbitraire. Il a pris ça pour nommer, mais ça ne veut rien dire de réel. Alors vous vous rendez compte, fini les indo-européanistes qui s'amusaient à s'écrire entre eux en proto-indo-européen ou à écrire des fables. Hein. Donc c'est ça, les leçons de la grammaire comparée, l'indépendance des grandes familles linguistiques, l'arbitraire de la naissance des langues. Il s'agit de deux axiomes fondateurs et incontournables. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a l'unanimité chez les comparatistes au XIXe siècle. Ce n'est pas une phobie de la Société linguistique de Paris, en 1866, d'interdire dans l'article 2 de ses statuts de considérer les communications qui portent sur l'origine des langues et sur la langue universelle. C'est la même chose qu'a faite l'Académie des sciences au XVIIe siècle, lorsqu'ils ont refusé les mémoires mathématiques sur la quadrature du cercle. Il y a encore des gens qui font des mémoires sur la quadrature du cercle. De même qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des mémoires sur l'origine des langues basées sur la comparaison, etc. Mais il faut bien comprendre le niveau. Hein, ce sont des axiomes, ce sont des postulats qui consistent à dire si vous admettez ça, alors vous pouvez faire de la grammaire comparée. Si vous n'admettez pas ça, alors la méthodologie de la grammaire comparée, elle génère n'importe quoi. Alors, bon, et je vais bientôt terminer parce que je suis bientôt à la fin de mon temps. Hein. C'est étonnant. C'est étonnant. Quand vous regardez les grands interdits scientifiques, bon, il y a en général quelque chose de définitif. Je ne pense pas que vous puissiez être professeur des universités en mathématiques et essayer de faire paraître dans une grande revue de mathématiques un mémoire sur le calcul de pi. Hein, je veux dire, ou des choses comme ça. La quadrature du cercle, bon, je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé et qu'on peut effectivement faire un pavage d'une figure circulaire avec des quadrilatères à condition de ne pas avoir de métrique. Mais si vous n'avez pas de métrique, du coup, vous ne pouvez pas utiliser pi. Donc, le problème... Mais jamais on ne revient en arrière. Jamais on ne revient en arrière. J'ajouterais même dans des cas comme le darwinisme. Dans les milieux scientifiques, on ne revient pas en arrière. Hein, je veux dire, les créationnistes, les gens du dessin intelligent, hein, intelligent design, etc., sont en général soit des extrémistes catholiques, soit maintenant des extrémistes musulmans, mais bon, il n'y a pas de possibilité. Là, c'est assez étonnant, hein, qu'on a vu les linguistes revenir là-dessus. Hein. Swadesh, vous connaissez tous Maurice Swadesh, qui était quelqu'un d'intéressant parce que c'est quelqu'un qui a été obligé de fuir les États-Unis à cause du maccartisme et qui s'est réfugié au Mexique, hein, donc grand spécialiste des langues amérindiennes de la région de Mexico, il a inventé une méthode pour dater la séparation entre les langues. Bon, vous avez un coefficient bon, vous avez une formule logarithmique. Vous mesurez les ressemblances, vous prenez deux langues, vocabulaire de base de 250 mots, vous mesurez la quantité de ressemblance et vous avez une formule à partir du logarithme de ce nombre qui vous dit combien de millénaires il y a eu la séparation. Alors malheureusement, quand on applique ça aux langues qu'on connaît, par exemple les langues romanes, on a documenté leur séparation, les langues germaniques, etc., ben, ça ne marche pas. Je veux dire, grosso modo, ça donne des résultats inversés à ce qui est attesté. Hein. Bon. Et puis, il y a eu des statisticiens, c'est quand même la moindre des choses qu'on s'intéresse, hein, notamment à un certain Ringe, qui a montré finalement que au-delà de deux changements, la probabilité pour que deux éléments se ressemblent est voisine de 1. Autrement dit, la convergence est aléatoire. Alors, Greenberg a été célèbre parce que lui aussi a fait des combinaisons de la comparaison multilatérale, donc par vocabulaire de base, 250 ou 300 mots à peu près, et a lancé de nouvelles hypothèses sur les apparentements en Afrique, sur les langues amérindiennes. Alors en Afrique, pour des raisons qui tiennent, je pense au fait qu'il a utilisé du matériel qui était déjà à l'intérieur des apparentements familiaux, ça marche à peu près. Ça a toujours été contesté sur les langues amérindiennes. Son disciple principal, c'est Mérite Rulen. Quand je dis son disciple, il faut bien voir qui est Mérite Rulen. C'est un zozo qui n'avait pas de poste, hein, qui n'a eu un poste que lorsqu'il a été célèbre. Et encore, pas dans les grandes universités. Alors, c'est intéressant, il a écrit une postface pour la traduction française de son ouvrage principal où il explique sa méthode. Alors, voilà, donc c'est en 2007, de l'autobiographie. Hein. Il était alors, donc à ce moment-là, sans poste. Il était étudiant en Californie et donc il avait le droit d'aller à la bibliothèque de Stanford, hein, puisqu'il était étudiant. Alors, il a d'abord choisi 36 sens fondamentaux connus pour être très stables à travers les âges. Que veut dire sens? Que veut dire signification? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces constantes? C'est absurde. Ensuite, pour choisir, pour chaque aire géographique, quel rapport de géographie entre les langues, hein, il a choisi 12 langues qu'il ne connaissait pas. C'est important, hein. Il est allé ensuite, donc, à la bibliothèque de Stanford, et il a cherché dans les dictionnaires de ces langues. Il a regroupé tout cela en une matrice de 12 langues et 36 sens. Pour ne retenir en fin de compte que les 12 mots donnant le témoignage le plus clair de la classification correcte. Les bras m'en tombent. En France, on étudie un petit peu de statistique en seconde, de méthodologie statistique. Bien entendu, personne ne ferait ce genre de choses. Alors, en plus, il est capable de vous expliquer que les ressemblances, elles fonctionnent à partir de 1. Du moment qu'il y a une ressemblance, c'est sûr. Autrement dit, il refuse tout ce qu'il y a derrière la grammaire comparée, les lois phonétiques, c'est-à-dire la comparaison de système à système. Il suffit, vous donne... Je donne un exemple. Pour lui, il y a une racine tic qui signifie doigt ou un, qu'on reconnaît dans toutes les langues du monde. Alors, cette racine, Bien sûr, elle change de signification selon les langues. Ça veut dire ongle, ça veut dire premier, ça veut dire cinq, pied, main, index, plusieurs, seulement, paume, patte, dix, désigner, dire, montrer, chose, orteil. Je ne sais pas si j'ai retenu tous les sens. Bon, c'est à peu près n'importe quoi. Alors, les linguistes ont été assez durs avec Mary Trullen, du moins les linguistes professionnels, et je dirais le laboratoire de la communication parlée de Grenoble a fait un modèle statistique pour montrer, en reprenant ce qu'on avait contre Swadesh, que quand on utilisait plus de deux changements sémantiques, la probabilité pour que les rapprochements soient dus au hasard avoisine 1. Alors, je vois que vous hésitez. Conclusion, pourquoi le retour ce cycle. Je laisse de côté, le problème du fondamentalisme religieux. Tout en sachant, j'ai enseigné la philosophie suffisamment longtemps dans ma vie, finalement, le progrès scientifique n'a pas fait reculer la croyance religieuse autant qu'on l'aurait cru. Pourquoi ce retour? En termes de business, en termes de professionnalisme, nous autres qui sommes des linguistes, comment a-t-il pu se faire que nous acceptions ça, que ça se passe dans notre communauté. J'ajouterais même que au CNRS, à un moment donné, le directeur du département de linguistique du CNRS, qui a été choisi, a défendu le programme de Mary Trullen sur l'origine des langues, a mis des crédits là-dessus. C'est pas anodin. En plus, il a été choisi par une commission dont je faisais partie. Et j'avais voté pour lui. Sauf que cet homme avait un diplôme d'ingénieur, avait fait son doctorat de linguistique en Californie. Je dirais qu'il n'avait pas la formation de 10 ou 15 années de fréquentation des langues qu'ont les comparatistes. Alors, ma réponse est celle-ci. Parce que, justement, il n'y a pas assez dans la formation des linguistes, d'histoire de la discipline. Dans le fond, quand vous faites des mathématiques, vous apprenez de l'histoire des mathématiques. Vous savez pourquoi la quadrature du cercle n'est pas possible. Vous regardez les manuels d'histoire de la linguistique, on vous dit que les recherches sur l'origine des langues sont interdites par les statuts de la Société de linguistique de Paris. Bon, vous n'apprenez rien. C'est des raisons institutionnelles. Ce n'est pas ça, comme ça que fonctionne la science. Par conséquent, la seule façon de nous protéger des mythes, c'est de faire de l'histoire de la discipline. Je vous remercie.